bord de la réveilleur Saint-Charles. Boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur shiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Bonjour, ici Frank Lafontaine.
Et Olivier de Galaxy, nous sommes en mode cochon festif et vous êtes à l'écoute de Shiz, la meilleure radio de tout le monde.
Salut, ici Claude Bégin. Vous écoutez Shiz 94.3.
Hello, ici c'est Petit Béliveau. Puis vous écoutez CHYZ 94.3. Le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Cette émission est commanditée par le Festival de diffusion alternative Le Focof, qui sera de retour du 21 au 25 février 2022. Toutes les informations au focof.com.
Il est 4 heures.
Jeudi tout le monde, on est le 27 janvier et vous écoutez l'émission Chérie j'arrive sur les ondes de Shiz 94.3. On va commencer l'émission aujourd'hui avec Louis-David Gingras, lui qui fait sa chronique Le son de la vie. On va ouvrir l'émission avec lui, on va poursuivre avec des nouvelles musicales comme à tous les jours. Je vous parle des sorties à venir et des sorties de la semaine. À partir de 16h30, je vais parler avec Hello Cosmo, lui qui va faire paraître le EP Bebop vendredi. À partir de 16h45, eh bien, je parle encore une fois de nouvelles musicales. À 17h, je reçois Alex Tremblay-Lamarche. Donc, voilà ce qui fait le plan, le planning de notre émission du jeudi 27 janvier. L'émission de Chérie J'arrive qui commence dès maintenant. On va y aller. On va avoir du plaisir aujourd'hui. All right, ça part dès maintenant.
Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Chiffres s'accumulent au compteur. Longue est l'attente avant l'heure où je pourrai enfin planter mes crocs, labourer les champs malgré la montée des eaux. Ah, j'ai la gueule sèche et la tête pleine de toutes ces choses qui causent mes peines, de tous ces mots qui pèsent lourd sur ma vingtaine. Rock, je chantonnerai à ton oreille. Je chantonnerai à ton oreille. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Kilomètre et kilomètre. J'y retourne à son maître. Oh, tu peux garder une main agrippée au collier. Je vais continuer d'échapper jusqu'au lever. Oh, je suis bouillant, désir saillant.
Je suis Ulysse, je suis Georges Sand. Sign till delivered.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et je suis en compagnie de Louis-David Gingras. Salut Louis-David, comment ça va?
Salut, ça va bien, merci. Toi?
Oui, je suis très content de savoir aussi que tout fonctionne au niveau technique. On a déplacé ta chronique. Habituellement, ça devait être le vendredi à 17h. Demain, il va y avoir quelque chose de spécial. On vous réserve la surprise pour demain. On va vous donner des nouvelles à partir de midi demain. Mais justement, on a déplacé ta chronique aujourd'hui. Moi, je trouve que ça tombe bien aujourd'hui. Je suis en mode un peu plus mollo. Je pense que c'est un bon état d'esprit pour commencer cette chronique-là, le son de la vie. Tout d'abord, toi, comment ça va aujourd'hui, Lou David?
Ça va bien. Ouais, j'ai passé une belle journée. Tu sais, des fois, tu as des journées plus difficiles, puis des fois, tu as des journées plus faciles. Puis le sujet du jour, justement, ça a le rapport à ça. Parce que c'est de quoi que moi, je vis en ce moment, mais c'est que j'ai fait des changements dans ma vie. Fait que je me rappelle pas du sujet du jour. Pourrais-tu me le rappeler? Je l'ai écrit.
Quand tu m'as envoyé le cher courriel de la journée, t'as dit l'impact de simples actions sur notre quotidien et comment changer. Comment est-ce que changer des petites actions peuvent avoir un grand impact sur notre vie, sur notre quotidien?
C'est ça, exactement. Puis dans le fond, moi, dans ma vie, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de... Je faisais une action qui n'était pas forcément en alignement avec ce que je voulais dans la vie. Mm-hmm. Et là, ça en amenait une chaîne domino. Fait que là, une action pas correcte, après ça, une autre. Puis là, après ça, ça faisait que là, je me suis réveillé un matin puis ma vie était tout bord, tout côté. Puis là, je me suis dit, je vais commencer par en changer une. Fait que là, un matin, je me suis dit, hier, en fait, je me suis dit, à tous les matins, je vais commencer avec du breathwork, des exercices de respiration.
Ouais.
Puis juste cette action-là a tout changé ma vie parce que après avoir fait cette action-là, là, j'étais dans un bon mindset. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, ça m'a amené vers des bonnes choses. Puis ça a fait un changement radical dans ma vie par une simple petite action qui est aussi simple que juste de prendre 10 minutes pour prendre soin de moi puis respirer.
Tu m'as un peu devancé, là. J'allais te demander, quand tu parles de changer des choses dans notre vie, dans notre quotidien, tu fais référence à quoi, là? Tu as parlé des exercices de respiration, pour toi, c'est bénéfique, mais qu'est-ce que les gens peuvent changer, que ce soit des petites affaires à changer?
Écoute, toi, tu sais que moi, les téléphones, j'ai quelque chose avec ça, là. Mais oui, en effet, moi, je pense de tu sais, quand les gens ont tout le temps le réflexe de prendre leur téléphone, de changer cette habitude-là, de prendre des moments pour être avec le téléphone, puis prendre des moments pour ne pas l'avoir. Fait que, mettons, quand je sors dehors, ou quand, mettons, je vais prendre l'autobus, je vais pas le checker, je vais regarder par la fenêtre à la place, je vais profiter de ça. Fait que moi, je me dis de briser un pattern, puis juste de faire une petite action différente. Là, puis ça peut être des affaires simples, là, comme changer... comme le matin, faire son lit. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Faire son lit. Les gens qui ne font pas leur lit, qui écoutent Chiz, faites votre lit demain.
C'est vrai que quand que on peut avoir des baisses de régime comme on pourrait dire des petites affaires comme ça autant faire son lit que de s'habiller ça peut être bénéfique. J'ai envie de faire un lien avec ton premier sujet de chronique ou dans tes premiers sujets là t'as parlé finalement de sortir de sa zone de confort. Ça revient pas mal tout le temps un peu à ça, n'est-ce pas?
Ben oui, parce que quand on reste dans notre confort, on stagne. Puis en fait, c'est que si on est confortable avec le fait d'être pas tout à fait complet dans sa vie, ben c'est qu'on va jamais rien accomplir. Puis tu sais, moi, comme analogie, tu sais, ça commençait à être sale chez moi. Tu sais, je faisais moi le ménage, j'ai slacké un peu. Puis j'étais confortable là-dedans. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, aïe aïe, j'étais comme couché à terre là, dans ma cuisine. Puis j'étais comme, aïe aïe, là, je suis vraiment rendu en bas, là. Puis là, ça m'a frappé. Puis là, je me suis dit, là, je suis plus confortable avec ça. Là, il faut que je fasse un changement. Puis d'un coup, tout le lendemain, je me réveille dans une maison propre, couché dans mon lit. Et tout est repris en place. Je fais mes exercices. Tu sais, fait que je pense que. Ouais, c'est ça. J'ai oublié c'est quoi la question. Là,
mais... Ben c'est de finalement un peu changer sa zone de confort, de pas, okay, oui, pas, oui. Trop, pas trop se poser, j'ai l'impression. Faut quand même rester prêt, si on pourrait dire ainsi.
Tout à fait, parce que c'est ça. Puis tu sais, moi, en fin de semaine, je m'en vais avec mes amis hommes, puis on s'en va faire des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort, dont se baigner dans un lac gelé.
Ouh.
Puis tu sais, pour moi, ça te connecte avec le moment présent, puis ça t'éloigne de ton confort. Tu peux pas être confortable dans... Mais tu peux le trouver, ton confort, mais c'est pas de quoi que tu vas faire naturellement. Tu vas pas te dire, « Ah, oh, samedi soir, j'ai le goût de relaxer. Ah, oh, je pense que j'allais dans le lac gelé. » Je vais pas te dire ça. On va penser au contraire.
T'sais. Tu me donneras des nouvelles par rapport à cette activité que tu feras en fin de semaine. Tu viendras m'en parler la semaine prochaine à ta prochaine chronique. Avant d'y aller pour le... Pas nécessairement la mission, mais le jeu de la semaine ou plus le conseil. Comment est-ce que tu voudrais conclure ta chronique aujourd'hui?
Ben, je voudrais dire aux gens qu'en fait, ça ne demande pas d'effort. Tu sais, souvent, les gens, ils voient plus loin.
Ouais.
Ils se disent, ah là, j'ai full de choses à changer. Mais non, juste de changer une chose va amener à changer toutes les autres choses.
Ouais.
Fait que juste de voir une page à la fois, un mois à la fois même. Puis après ça, le livre, il s'écrit tout seul, tu sais.
C'est une belle façon de le dire.
Ouais.
Donc, on va y aller avec le jingle de conclusion, si tu le veux bien. Et c'est à toi, Louis-David.
OK, excuse, moi, je ne l'entends pas. Ah. On est comme à distance, là. Moi, je n'entends pas le jingle.
Il est parti, alors... donc vas-y.
D'accord, la mission de la semaine ou le jeu, j'aime ça parce que je veux pas que ça soit trop sérieux, mais ça a le rapport au sujet en fait, c'est de changer une chose dans votre routine. Ça peut être la chose la plus simple. Tu sais, pour moi, c'était de rajouter quelque chose, de rajouter un temps pour faire du breathwork. Je médite déjà tous les matins, mais j'ai rajouté ça. Puis juste de faire un changement. Puis vous allez voir, d'en changer un, ça l'ouvre la place à d'autres changements. Alors... je vous souhaite la vie que vous désirez construire et que ça commence une action à la fois.
Et justement, c'est avec ce discours motivant qu'on se quitte aujourd'hui, Louis-David, mais on va se dire à la semaine prochaine. Et j'espère que tu te porteras bien. On se dit à très bientôt.
Tout à fait. Peace.
Salut.
Sur le fil, j'éteins le son de mon téléphone. Je me sens toujours un peu trop conne. Tout est fermé, t'as encore disparu. Mes déceptions, je les ai pues. Mes déceptions, je les ai pues. Tu parles à d'autres devant moi. À qui la faute, je ne sais pas. Je n'aurais jamais dû valser dans ta tempête. Moi, je voulais juste planer un peu dans ta terre. Arrête de danser.
Thank you. going so fast. For me, love, for me, you're going so fast. For me, love, for me, you're going so fast. For me, love, for me, you're going so fast.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous entendiez Can't Let Go, c'est un featuring avec The Lions et c'est le remix de leur chanson qu'ils ont faite avec Laroy ou Laroy, qu'on pourrait dire ici au Québec. Laroy qui offre une seconde vie à justement cette EP Speed of Life qui porte le surnom aussi affectueux de Sol, qui est sorti en septembre dernier. Grâce justement, elle donne une seconde vie grâce à la collaboration créative de cinq artistes montréalais. Vous entendiez The Lions avec le remix de leur chanson. Il y a aussi Martin Booty Spoon, Honey Drip et Gene Tellem également. Gabriel Hay qui se retrouve sur, dans le fond, un deuxième EP. On pourrait appeler ça EP Speed of Life Remix et c'est dans le fond un deuxième spin aux chansons qu'ils ont déjà faites. Ça s'appelle le EP Soul Remix Selection qui se définit comme un manifesto musical, un appel viscéral au retour au dance floor, parce que vous, comme vous l'avez vu, c'est assez dansant comme, comme remix et c'est également un encouragement pour la relève de la scène électro locale. Si vous ne connaissiez pas Laroy avant ça, eh bien celle qui a ce projet-là s'appelle Gab Godon. Elle s'est d'abord démarquée au sein du duo Heart Street en compagnie de Emma Beko. C'est après de nombreuses années à travailler, à collaborer auprès de différents artistes qu'elle décide de d'oser et de partir son projet en solo. Alors elle dévoile Laroy ou Laroy, comme ils disent du côté du Canada. D'anglais. C'est un projet qui a l'ambition de vouloir approcher les gens par des chansons qui font sentir bien. Le well-being, c'est bien important pour Laroy. Après avoir joué dans plusieurs festivals comme Oshiaga, le Festival international de jazz de Montréal, on a eu North by Northeast aussi. Elle a lancé un premier EP en 2020 avec lequel elle révélait un son plus pop et soul, alors que Earth Street, c'est surtout R&B plus je dirais quasiment dans le aux influences hip-hop. Là, elle est plus dans un son pop et soul qu'elle a minutieusement élaboré en collaboration notamment du producteur Robert Robert, qu'on aime bien ici à Chiz. Et ben justement, son deuxième EP, Speed of Life, qui est paru en septembre dernier. Et là, il y a une deuxième vie pour cet album qui va sortir à la mi-février, c'est pour le 11 février. C'était une collaboration avec The Lions. The Lions, je vous en ai parlé dernièrement, c'est un groupe montréalais qui a été formé en 2013 par SLV, lui qui porte le nom de Anthony Salvo, et aussi de Norin, donc de Taryn McLeod Richardson. Ils ont fait paraître leur premier album en 2015 et ils ont fait des spectacles partout au Canada, même aussi au Festival international de jazz de Montréal. Récemment, sont allés aussi au Montreux Jazz Festival, le festival de jazz de Montreux en Suisse. Et leur style qui mélange hip-hop et électronique, qui c'est très très bon. C'est un duo à écouter, The Lions avec un Z à la fin. Et ils ont sorti aussi un album en octobre dernier. Ça s'appelle Change in Color. Donc voilà pour The Lions et Laroy avec son EP Soul Speed of Life, le remix avec cinq artistes montréalais qui font un peu, j'ai envie de dire, qui stimule la scène électro locale du Québec. Je voulais maintenant vous parler de Ariane Roy et c'est parce que elle va avoir un album qui s'en vient prochainement. Mais avant de vous donner plus d'infos, on y va avec Ce n'est pas de la chance, un de ses plus récents singles. Vous écoutez Chérie j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. En ruban, cette musique d'Ariane Roy, c'était la chanson Ce n'est pas de la chance. Vous êtes de retour à l'émission Chérie J'arrive, et juste avant d'y aller pour la pause publicitaire, je vous ai fait jouer cette chanson-là d'Ariane Roy parce qu'elle va dévoiler Medium Plaisir, son premier album complet. On avait eu le droit à plusieurs EP, mais là, après avoir fait des tournées au Québec, on l'a vu plusieurs fois dans les festivals, on l'a vu dans les quatre coins du Québec, elle a eu aussi Révélation Radio-Canada, et bien là, on va avoir droit à son premier album. album qui va paraître le 11 février. Je suis en train, en coulisses, de planifier quelque chose pour la recevoir en studio la semaine prochaine. Eh bien, je vous tiendrai au courant. On va pouvoir se laisser pour la pause et au retour. J'ai Hello Cosmo je vous en ai jasé tout au long de la semaine parce qu'il y a son premier EP qui s'appelle Bebop qui va sortir demain. Et vous allez pouvoir écouter une chanson en exclusivité, la deuxième chanson qui s'appelle Au Hippocampe sur cet album. On va jaser aussi de c'est qui Hello Cosmo, ça vient d'où et qu'est-ce que ça mange en hiver. Au retour de cette pause, vous écoutez l'émission Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les lundis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et vous écoutiez Couteau. C'est la toute première chanson d'un EP qui s'appelle Bebop et c'est un EP qui sort demain. C'est de l'artiste Hello Cosmo de Montréal et on le reçoit par téléphone. Salut Hello Cosmo, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Écoute, on a hâte que les shows reprennent et que les sorties aussi reprennent. Et j'ai l'impression que tu commences un peu ce bal de 2022 avec les sorties musicales. Tu sors Bebop, ton premier EP. Mais avant d'aborder ce projet-là, il faut te présenter. Justin Courcel, a.k.a. Hello Cosmo. D'où sors-tu? Pourquoi as-tu commencé à faire de la musique?
Moi, je fais de la musique depuis quand même longtemps. Mm-hmm. Mon bagage est un peu plus dans le rock puis dans le indie. Ouais. Ceci dit, j'étais tanné un peu de faire de la musique de band, puis je voulais être un peu plus indépendant, surtout au cours de la pandémie. Je me suis mis à vraiment maîtriser les plateformes comme Ableton, puis des sons un peu plus analogues, des synthétiseurs, puis des drum machines, puis je m'y suis plus. Puis là, je me suis mis à faire de la musique que j'écoute plus ces temps-ci, qui est plus proche de la pop, du hip-hop, du trip-hop, ouais. Tout ça. Puis c'est ça. Here I am today.
Ben oui, here you are.
Mon album sort demain, puis je suis très content.
Ben oui, et j'ai pu écouter ça. Et les gens ont pu quand même écouter 3 chansons sur 6, donc ils ont une bonne idée de où ce que ça s'en va. Mais j'aimerais ça savoir aussi d'où ce que ça vient, Hello Cosmo, parce que t'en parles dans tes textes justement de cette vie cosmique. De quelle planète viens-tu, Hello Cosmo?
Je pense que Hello Cosmo, c'était vraiment je changeais complètement d'univers, puis changeais complètement. Désolé, je suis avec les membres de mon band, puis on rigole en studio en ce moment. Vu que je voulais vraiment amener ce côté aliénant de ma nouvelle musique et tout ça, créer un personnage qui était un peu hors des normes. Mm-hmm. Puis je pense que de pouvoir parler à travers un personnage, ça me permettait aussi de dire certaines affaires ou de m'ouvrir par rapport à certaines émotions. Que j'aurais pas nécessairement dit si mon nom était Justin Courcel. Mm-hmm. So, Hello Cosmo, c'est un peu Cosmo comme un peu Cosmo Kramer dans Seinfeld. Cosmo, un nom un peu étrange. Puis ouais. Hello, comme, tu sais, mon nom, c'est vraiment une salutation, là. C'est un peu hors de norme. Je sais pas. Je trouve que ça sonne bien. C'est esthétique.
Ben oui, tout à fait. Puis ça fait de la bonne musique aussi avec ce nom-là. Comme je l'ai dit, tu parles entre autres de thèmes universels. Tu parles d'amour, tu parles de deuil, tu parles de vieillesse. On a des collaborations aussi assez importantes. Tu fais pas de la musique avec n'importe qui. La première chanson que tu as fait paraître, c'est Alcoa avec Mantis. Après ça, Monique, je suis pacté avec Kerouac. Monique aussi, qui est finalement Sylvie Moreau. Comment est-ce que tu as pu atteindre des collaborations aussi incroyable pour un premier EP?
Je suis bien entouré depuis quand même longtemps, puis je connais beaucoup de personnes dans le milieu. Tu sais, admettons, beaucoup de personnes, c'est un gros mot, mais genre, Kerouac puis Mantis, c'était ouais. Des amis que j'avais depuis longtemps, puis dont je respecte énormément le travail. Donc, ça a juste été évident dès le début de collaborer avec eux. Mm-hmm. Puis je pense que comme il y a un peu un tabou, genre un non-dit dans le rock de. Les gens ils collaborent pas tant que ça, il n'y a pas tant de featuring. Ouais. Alors c'était comme le fun de pouvoir avoir cette ouverture-là, puis cette possibilité de collaborer avec des gens que je respecte, puis de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils peuvent amener à mon univers pour mieux le bâtir par la suite.
Et justement, tu viens de le dire, puis j'aimerais ça qu'on continue dans cette allée-là. Tu proposes un premier EP, donc c'est un peu une carte de visite, c'est un peu tu t'assumes, tu te présentes dans toute ta personnalité. Et il y en a des fois, quand c'est un premier projet, ils préfèrent de garder ça un peu plus personnel, de garder ça pour soi. Toi, t'as voulu justement bâtir cette personnalité-là en allant chercher des alliés forts autour de toi?
Un peu. Je dirais que vu que ce projet-là, c'est le premier que je fais tout seul à la base, c'est le premier où ce que je m'étais vraiment dit, OK, là, c'est quoi que ça me tente de faire aujourd'hui comme projet? C'est quoi la musique qui me stimule? C'est quel genre de musique que je veux faire? D'où le fait que je me mets à chanter en franglais sur ce projet-ci. Mm-hmm. Auparavant, je faisais plus de la musique en anglais. Puis c'est plus comme un amalgame de tous les styles de musique que j'aime, puis d'essayer de créer un peu un nouveau style ou créer mon son. Puis c'est sûr que pour créer mon son, il me fallait des alliés forts, puis il fallait des gens que dont je respecte l'œuvre. Mm-hmm. Donc je pense que ce côté-là, les collaborations m'ont beaucoup aidé puis me permettent de comme mieux voir, mieux entrevoir le futur puis les prochains projets que je voudrais sortir, parce que je suis quand même ça me tente de faire de la musique, puis c'est pas parce que je sors d'un EP demain que j'arrête pour autant là.
Tout à fait. Ben, je comprends aussi que de partager un premier projet, c'est aussi motivant pour en sortir plusieurs autres. J'ai parlé de Alcoa, qui était ton premier single en collaboration avec Mantis. Il y a un vidéoclip qui accompagne cette sortie-là, tout comme l'autre featuring avec Kerouac. On a un monde assez particulier dans tes vidéoclips. Ma première question, c'est est-ce que ces histoires-là se suivent? Comment est-ce que t'as planifié ça quand t'as voulu créer visuellement ton univers?
Je pense qu'on s'était dit on voulait vraiment baser le personnage puis être capable de l'exprimer visuellement. Alors avec Zachary Ayotte qui a réalisé les clips et avec qui j'ai travaillé beaucoup là-dessus, on voulait faire suivre les trucs, on voulait juste que... Ben, j'ai pas vraiment plus d'explications là-dessus. C'était plus un statement de cet album-là, Beep Boop, est un moment dans le temps, puis si on allait sortir des vidéoclips, ça allait suivre comme cette esthétique-là, comme visuellement et niveau personnalité, qui Hello Cosmo est. Puis de ce côté-là, de faire deux clips qui suivent à l'endroit et à l'envers, à travers la brosse, à travers un peu le mystère, à travers le côté un peu ridicule de la chose, je pense que ça l'a capturé où est-ce que je me positionnais puis où est-ce que Hello Cosmo se positionne depuis peut-être un an.
Et je voulais te demander, est-ce que tu as pensé un peu à comment est-ce que tu vas articuler ça sur une scène? Est-ce que tu vas avoir des musiciens qui vont t'entourer? Comment tu prévois faire ça?
Moi, je voulais vraiment séparer l'expérience studio de l'expérience live.
Okay.
Alors, en studio, on s'enligne vraiment pour avoir un gros band puis expérimenter un peu plus avec les chansons, peut-être les rallonger, les raccourcir, donner une expérience un peu plus live et moins cadrée comme l'album le propose, pour justement s'adapter avec la foule, tu sais. On veut vraiment donner un spectacle, puis si tu veux écouter l'album, va écouter l'album, c'est une expérience, mais en show, ça va vraiment être quelque chose d'autre, ça va être quelque chose d'éclaté, puis beaucoup plus théâtral, je pense.
Ben, j'ai bien hâte de voir ça, puis je te souhaite que ça soit le plus tôt possible de pouvoir performer ce EP devant public. Tu l'as annoncé sur tes médias sociaux, on va faire jouer en exclusivité la deuxième chanson de ton EP. C'est une chanson qui s'appelle « Au Hippocampe ». J'aimerais ça soit une petite anecdote ou juste me dire comment est-ce que cette chanson-là a vu le jour pour avant d'y aller avec l'écoute de cette chanson-là.
Au Hippocampe, c'est une chanson, vu la pandémie, je me suis imaginé une relation d'amour entre une personne et son ordinateur, ou en d'autres mots, peut-être comme une personne qui fait de la cam, ou une personne que cette personne-là n'a jamais rencontrée de sa vie. Je pense que dans le contexte de la pandémie, on était beaucoup distancés, puis il y a beaucoup d'amours qui se sont créés, beaucoup d'amours qui se sont détruits. Sur cette chanson-là, c'est un peu comme un cri du cœur de quelqu'un qui est éloigné de son doux ou de sa douce, et qui veut juste pouvoir la rencontrer puis danser avec. Donc, c'est juste ça. Puis la métaphore avec l'hippocampe, c'est juste pour donner un petit côté un peu hurluberlu, quoi.
Oui, c'est poétique et c'est très inspirant. Merci beaucoup, Hello Cosmo, d'être passé à Chérie J'arrive. On y va avec Au Hippocampe de ton EP qui va sortir demain. Ça s'appelle Bebop. Et ben, encore une fois, je te remercie d'être passé.
Ben, merci à vous de m'avoir. Salut.
Salut. êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Science du bruit, c'est sur Chose Sauvage 2, le projet de Chose Sauvage qui est sorti dernièrement. C'est en octobre dernier qu'ils nous ont bénis avec un deuxième album. Je dis béni parce que c'est une formation que j'affectionne particulièrement. On les connaît entre autres pour leur premier album Chose Sauvage, leur album homonyme, entre autres avec La Valse des Trottoirs. Ils ont beaucoup de singles sur ce projet-là. Et avec leur deuxième album, c'est un retour bien assuré avec, comme vous l'avez bien compris à l'écoute de Science du bruit, ils aiment ça allonger leurs chansons, ils aiment ça... que le party soit pogné finalement, et le party sera pogné aussi au Texas puisqu'ils seront de la programmation de l'édition 2022 de South by Southwest. Tantôt je vous parlais de North by Northeast, mais là c'est le contraire. Ils vont comme Loudly Ridges l'avait fait dans le passé, comme Delobees aussi l'avait fait, Nayali, plusieurs artistes québécois là, vite comme ça j'ai seulement des rappeurs et rappeuses en tête, mais il y a beaucoup d'artistes qui à chaque année vont montrer le talent musical du Québec au sud des États-Unis, et c'est le fun de pouvoir voir que encore une fois, parce qu'ils avaient fait la version virtuelle de South by Southwest l'an passé, Chose Sauvage, qui reviennent cette année, et on l'espère vont pouvoir voyager, les voyages qui reprennent tranquillement, les tournées qui sont annoncées. Il y avait entre autres Le Couleur qui vont aller voir nos cousins français de l'autre côté, et c'est ça, il y a plusieurs tournées qui vont prendre place, mais là depuis que je vous en parle cette semaine, on parle surtout de la réouverture des salles avant de parler des tournées mondiales. Au courant de la semaine dernière, je vous ai parlé du projet 1969 de 1969 Collective. C'est un projet qui avait été initié, initialement c'était pour rendre hommage à la décennie des années 70, parce que vous le savez sûrement, les années 70 ont vu naître beaucoup de genres musicaux. On peut penser à la musique psychédélique, mais on peut penser aux racines du hip-hop, le rock qui s'est développé. Les années 70 sont pour plusieurs l'âge d'or de la musique. Il y en a que on pourrait débattre en long et en large de la meilleure décennie en termes de musique, mais les années 70 restent quand même assez importants dans l'histoire musicale. Et l'idée de partir ce projet-là, finalement, ils se sont dit, on va partir un an d'avant, on va partir en 69, et ça reste quand même une année très 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 importante au niveau de la musique. Et je vous avais parlé de ce collectif parce que on en connaît beaucoup des artistes qui font partie de ce collectif-là, entre autres Ariane Moffat, Safia Nolin, Elliot Maginot, Louis-Jean Cormier. On a d'autres artistes comme Claudia Bouvette, on a Half Moon Run, les Sœurs Boulay. On a beaucoup d'artistes qu'on connaît, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce projet-là va nous démontrer de cette collaboration. Ça va être disponible à la mi-avril. Mais là, aujourd'hui, il y a Deux Cœurs Vagabonds qui, c'est le premier single de ce projet-là, de cet album-là qui est sorti. C'est avec Ariane Moffat. Donc, on va y aller avec l'écoute de cette chanson-là. Au retour, on y va avec la chronique littéraire d'Alex Tremblay-Lamarche. Donc, ça va être Histoire de lire à partir de 17h. On y va en musique avec Deux Cœurs Vagabonds de Ariane Moffat.
Si on ne peut plus se toucher, je préfère de loin m'en...
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre planète et stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chérie 94.3. Vous écoutez la chanson Ciel bleu de Bon Enfant. C'est sur leur plus récent opus qui s'appelle Diorama. Chaque jeudi 17h, c'est la chronique Histoire de lire avec nul autre qu'Alex Tremblay-Lamarche. Et aujourd'hui, ben, ça ne fait pas exception. Salut Alex, comment ça va?
Ça va
bien, mais je n'ai pas allumé le bon micro. Salut Alex.
Bonjour Félix cette fois-ci. Bonjour aux auditeurs.
On a parlé deux fois de cette semaine à l'émission de la réouverture des salles. Alors, mm-hmm. Tu as utilisé cette nouvelle que plusieurs attendent comme thèse ou comme prétexte plutôt de ton angle cette semaine. On va parler de théâtre, on va parler de musique, on va parler de l'histoire de l'art. On veut commencer par le théâtre, je crois.
Oui, ça fait un certain temps qu'on attend la réouverture des salles de théâtre. Mmh. Et je me suis dit que cette semaine, j'allais vous présenter une petite pièce de théâtre. Oui. C'est moins dans mes habitudes que ceux qui me suivent à l'habitude savent que je couvre beaucoup tout ce qui est histoire, tout ce qui est essai. Mmh. Et en m'écoutant vous parler de cette pièce de théâtre, vous allez comprendre mon intérêt pour elle. Ça s'appelle Robertine, c'est de Paul Fortier. Robertine, eh bien, c'est qui? C'est Robertine Barry, l'une des pionnières du mouvement suffragiste et du mouvement pour les droits des femmes au Québec. Ouais. Très tôt, Robertine Barry va s'imposer comme étant une défenseuse de l'éducation laïque, de l'émancipation des femmes. Et Paul Fortier a eu envie de mettre en scène Robertine Barry face à Monseigneur Bruchesi, l'évêque de Montréal, et de faire une espèce de duel entre les deux, où d'un côté, on a Robertine Barry qui veut laisser plus de place aux femmes, leur permettre de connaître une certaine émancipation, ouvrir des bibliothèques publiques, et de l'autre côté, on a Monseigneur Bruchesi qui trouve que oui, effectivement, il faut donner certains droits aux femmes, mais dans l'ordre de la morale catholique, et qu'il faudrait quand même pas aller vers l'anarchie en leur permettant de lire n'importe quoi. Et donc, on a un affrontement entre les deux se fait de manière fictive et de manière réelle. Lors du congrès de fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est une des premières associations là, féministes au Québec, mm-hmm. et Paul Fortier imagine une rencontre qui aurait pu avoir lieu entre Robertine Barry et Monseigneur Bruchesi avant, et relate par la suite ce qui s'est passé pendant le congrès, un certain affrontement, et il imagine justement une scène après où, disons qu'ils disent leurs quatre vérités face à face.
Tout à fait. Tu m'as présenté Robertine comme étant justement de nos jours, on pourrait dire activiste dans le temps. Je ne sais pas si c'était le bon terme, mais on connaît son point de vue. Pour le côté de Monseigneur, dont j'oublie le nom, est-ce que ce personnage était reconnu comme étant vraiment fort de son côté, de ses opinions, qu'il était vraiment à l'autre côté, à l'opposé plutôt, devrais-je dire, des points de vue de Robertine. Est-ce que on le connaissait comme étant farouche et de poursuivre aussi la tradition, comme tu disais, tradition catholique?
Oui, le personnage qui se retrouve face à Robertine Barry dans cette pièce de théâtre-là, Monseigneur Bruchesi, c'est l'évêque de Montréal. C'est un personnage qui a vraiment existé, qui au début du 20e siècle tente de moderniser l'Église, mais plus de la moderniser dans un sens de la faire devenir urbaine, de l'adapter au monde ouvrier, parce qu'on est passé d'un Québec où la plupart des gens étaient dans les campagnes, dans les milieux ruraux.
Dans les petits villages que l'Église rejoignait les gens.
Et où l'Église pouvait avoir un certain contrôle, à un milieu urbain où c'est des nouvelles personnes qui viennent de déménager, qui sont pas encore enracinées autant qu'elles l'étaient à la campagne. Mm-hmm. C'est également des nouvelles, des nouveaux modes de travail avec le travail en usine. Mm-hmm. Et donc, il va de ce côté, effectivement, relativement bien faire évoluer l'Église. Mais sur la question, par contre, de l'éducation, sur la question des droits des femmes, eh bien, il va avoir un petit peu plus de retard, notamment dans la pièce et dans la vraie vie aussi. Ils vont s'affronter sur la question de l'ouverture d'une première bibliothèque publique à Montréal. Les milieux libéraux à l'époque l'époque, les milieux progressistes et les milieux effectivement féministes sont pour l'ouverture d'une bibliothèque publique pour que les gens puissent avoir accès à de la lecture. Or, pour l'Église, eh bien, c'est un endroit où il pourrait avoir des mauvaises lectures. Mm-hmm. Faut laisser ça entre les mains des prêtres. Les prêtres le font très bien. Il y a des bibliothèques paroissiales avec des livres triés, choisis sur le volet, pas de livres qui présentent des idées dangereuses. Et donc, il s'oppose à la création d'une bibliothèque publique à Montréal. Donc, c'est sur des idées comme ça qu'il s'affronte dans la pièce. Pièce qui, d'ailleurs, a été présentée à l'Île verte du 27 juillet au 5 août 2018. L'Île verte, c'est l'endroit d'où est originaire Robertine Barry, même si elle a passé l'essentiel de sa vie active à Montréal. Et donc, une belle occasion de lire du théâtre, une belle occasion de découvrir plus amplement un de nos personnages historiques qui est précurseur de bien des mouvements du mouvement d'émancipation. C'est une de nos premières journalistes également, Robertine Barry. Donc, ça permet de la voir dans un contexte un petit peu plus décontracté qu'en lisant une biographie formelle ou en plongeant dans les sources d'époque. Là.
J'adore le fait que tu m'as parlé de théâtre, justement, avec Robertine de Paul Fortier. On passe maintenant au milieu musical. Tu vas nous présenter un acteur de, justement, cette scène musicale. Il s'appelle Félix Routier-Bertrand. Et tout comme les artistes de nos contemporains, finalement, de l'époque moderne. C'est pas facile d'évoluer dans le milieu musical. On présente maintenant Félix Routier-Bertrand et sa vie difficile qui a, tu parlais justement, jusqu'à l'âge de 50 ans qui a finalement bûché pour se trouver du travail.
Oui, tout à fait. C'est ça. Je ne sais pas si Félix Routier-Bertrand, s'il était toujours des nôtres aujourd'hui, puisqu'il est décédé en 1978, il aimerait qu'on le présente comme ça. Mais c'est un organiste, un pianiste, un chef de chœur, un compositeur. C'est quelqu'un qui évolue dans le milieu de la musique. Et si vous êtes dans le milieu de la musique ou si vous connaissez des gens qui sont dans le milieu de la musique, vous allez souvent être face à des gens qui sont multitâches. Soit ils vont enseigner un peu, soit ils vont jouer dans des petits ensembles, soit ils vont également faire des contrats sur le côté, parce que percer dans le milieu de la musique et avoir un poste stable, ce n'est effectivement pas facile. Mm-hmm. Et la plupart des biographies qu'on a de musiciens, c'est souvent les grands qui rapidement deviennent des vedettes, ont pas de problèmes financiers, sont capables de jouer partout, alors que là, on est plus près de ce qu'est une vraie vie de musicien, j'aurais envie de dire. Félix Routier-Bertrand, il a du talent, il naît dans un milieu cultivé. Son père est chef de chœur, si je ne m'abuse, maître de chapelle, pardon. Sa mère a également été première dans des concours de musique vocale à l'adolescence. Il est le petit-neveu du compositeur de l'hymne national du Canada. Donc, il vient d'un milieu cultivé, qui s'intéresse à la musique, mais tout au long de sa vie, il va devoir emprunter différentes avenues pour être capable de travailler, pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille, que ça soit en tant qu'organiste dans des églises, que ça soit du côté de la radio, où il va être musicien dans les années 1930 et 40, que ça soit en faisant une thèse de doctorat sur la musique à la radio et en espérant aller du côté universitaire. Et ce n'est qu'en 1961 qu'il va être capable de vraiment décrocher une bonne position d'organiste à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton, et que là, vraiment, il va disposer d'une certaine stabilité. Avant, il va toujours avoir été de place en place. Et donc, il a même été représentant également pour les orgues Hammond. C'est des orgues qui sont bon marché et qui, dans les années 1930, vont faire la joie de plusieurs églises ou de plusieurs musiciens qui n'ont pas les moyens d'avoir un orgue en bonne et due forme avec, tout plein de tuyaux, alors que là, on a un orgue qui, est à meilleur marché, donc il va vendre des orgues lui-même. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans cette biographie de musicien, c'est que on a vraiment un parcours qui ressemble plus à ceux de nombreux musiciens. Un parcours qui est loin, effectivement, de ceux qu'on met toujours de l'avant, mais qui n'en est pas moins brillant pour autant, et qui permet de mettre de l'avant aussi cette confluence entre modernité, l'arrivée de la radio, comment est-ce qu'on se met à enregistrer des disques, comment est-ce qu'on se met effectivement à utiliser ces nouveaux moyens-là, mais en même temps une certaine tradition avec l'Église catholique, l'Église qui se modernise, c'est un organiste. Donc, on est aux confluences de plein de choses, et j'aime ça.
Ben oui, tout à fait. Puis, tu le disais, il y a il a grandi au début des années 1900 et ouais. C'est une époque où on avait grandement besoin de personnes qui jouaient de l'orgue. Ouais. Et ben, il est quand même mort dans un temps où on en avait encore besoin, mais avec le temps, ce poste-là est, j'ai envie de dire, pas aussi recherché qu'avant, mais c'est ce qui a fait en sorte que aussi il a pu, comme tu l'as dit, se moderniser en se tournant vers d'autres avenues comme la radio et la musique, notamment dans la radio. On va passer à ton troisième ouvrage. Oui. Ça porte sur l'art au Québec. C'est de François-Marc Gagnon.
Oui, eh bien, comme les musées n'ont jamais fermé pendant cette vague-ci, j'avais envie de traiter d'un ouvrage qui, bon, ne porte pas directement sur les musées, mais qui va vous intéresser si vous aimez les musées. C'est un ouvrage sur l'historien de l'art François-Marc Gagnon. Né en 1935 à Paris et mort en 2019. François-Marc Gagnon, il n'est pas tant que ça connu du grand public, mais dans le milieu de l'histoire de l'art, c'est un monstre sacré, j'aurais envie de dire. Ouais. C'est vraiment celui qui a créé l'histoire de l'art québécoise et canadienne, si je peux m'exprimer ainsi. En 1966, il va devenir professeur à l'Université de Montréal et ne prendre sa retraite qu'en l'an 2000. Puis retraite, il faut le dire vite, parce qu'il va devenir directeur de l'Institut de recherche Gail et Stéphane A. Jarilovski à Concordia jusqu'en 2011. Donc, quand même à un âge déjà canonique, puisqu'on rappelle qu'il est né en 1935.
Ouais.
Et pendant ces presque cinq décennies, il va contribuer à développer l'histoire de l'art au Québec. Il va travailler sur deux fronts. D'un côté, sur ce que j'appellerais l'art ancien, donc histoire de l'art en Nouvelle-France, histoire de l'art du 19e siècle, 18e siècle, et donc nous faire redécouvrir le Québec et son histoire de l'art, son histoire visuelle. Et de l'autre côté, il va travailler sur l'art moderne, sur les automatistes. Il a grandi avec les enfants de Paul-Émile Bordua. Son père était un bon ami de Paul-Émile Bordua. Il va vraiment être un très, très proche observateur du mouvement automatiste. Et il va contribuer à le documenter. Et donc, ça, c'est peut-être un petit peu, je dirais, sur l'homme. Maintenant, parlons du livre plus à proprement parler. Eh bien, c'est un livre qui vous permet de découvrir le personnage. C'est un livre qui est fait principalement par des amis et des élèves de François-Marc Gagnon, qui sont eux-mêmes devenus des sommités dans le milieu de l'histoire de l'art. On pense notamment à l'ancienne directrice du Musée national des beaux-arts du Québec, Esther Trépanier, ou à de nombreux autres professeur d'histoire de l'art dans différentes universités québécoises. Et cet ouvrage permet vraiment de voir sa contribution à l'histoire de l'art au Québec. Ça permet également de le voir sous un angle qui est quand même assez humain, assez sympathique. Jérôme Delgado, dans le chapitre qu'il consacre à l'enfance de François-Marc Gagnon et à ses débuts, nous apprend effectivement ses origines, son intérêt pour l'art qui n'était pas inné. C'est assez sympathique les anecdotes qu'on a parce que ben, très tôt, François-Marc Gagnon, il s'intéresse à l'histoire naturelle, aux sciences, il va devenir médecin. Son père est historien de l'art, mais il trouve ça bof-bof. À un moment donné, un anniversaire, il va recevoir un livre sur Renoir. Puis là, ben, alors qu'il déballait le livre, là, il était comme « Ah, yes, un livre avec des planches anatomiques pour exercer ma passion. » Puis là, il déballe ça, puis fait comme « Renoir ». Il fait « Ouais, j'ai vraiment l'impression que mon père a voulu se donner un cadeau. » Tu sais, les cadeaux que t'offres à quelqu'un d'autre ouais. alors que c'est plus pour toi. Ouais. Là. Et il va être beaucoup plus proche de sa mère qui, bon, s'intéresse davantage à la philosophie, aller du côté des Dominicains. Parce que, bon, l'art... Il aime dessiner, mais tu sais, ça l'intéresse pas tant que ça. Et finalement, ça va le rattraper et c'est vraiment le domaine vers lequel il va se diriger. Fait que des petites anecdotes comme ça qui permettent de mieux comprendre le personnage, de le redécouvrir ou de le découvrir si vous ne le connaissez pas.
Ouais.
Le chapitre de Jérôme Delgado est particulièrement bien écrit, particulièrement accessible. Comme je mentionne, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Il a écrit ce chapitre avec François-Marc Gagnon avant qu'il nous quitte en 2019. On apprend aussi que alors que François Jean-François-Marc Gagnon est honoré, il est fait officier de l'Ordre du Québec, mm-hmm. et bien qu'il a des problèmes avec le fédéral parce qu'il veut renouveler son passeport et son nom, François-Marc Gagnon, n'est pas sur son baptistère. Et alors qu'effectivement, bon, c'est une sommité, il est fait chevalier, ben, on refuse de lui donner un passeport et un nouveau visa pour aller en Israël parce que ben, il n'a pas, il n'est pas écrit le François, il sort de où? On ne le trouve pas, effectivement.
Okay.
Et ça, on l'apprend dans le chapitre de Jérôme Delgado, c'est que François-Marc Gagnon, avant de devenir historien de l'art, il a brièvement été dominicain.
Okay.
Et à l'époque, on choisissait un nom quand on rentrait en religion et il est rentré en religion sous le nom de François. Mmh. Et lorsqu'il est sorti de religion, eh bien, il a décidé de garder le François. Donc, Marc Gagnon est devenu François-Marc Gagnon.
Mmh.
Donc, c'est assez sympathique à lire. Moi, j'ai bien aimé.
Tout à fait. Juste avant de conclure cette chronique-là, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu parce que tu as dit que c'est une sommité pour l'histoire de l'art au Québec. Tu as dit qu'il y a justement pas nécessairement vulgarisé, mais mis au goût du jour l'histoire de l'art au Québec, nos artistes d'ici. Est-ce que aussi il a justement popularisé tout l'art, j'ai envie de dire quasiment l'art international? Est-ce que lui, son objectif aussi, c'était de faire en sorte que les gens au Québec soient plus au courant de ce qui se passe au niveau de l'art, ou c'était vraiment ce qui se passait ici?
Ben, je dirais que lorsqu'il rentre dans le métier, on s'intéresse énormément à l'art européen. À l'époque de son père, par exemple, ben, on voit pas l'intérêt tant que ça de l'art québécois, l'art canadien. On a Dieu que pour la Renaissance. Et donc,
L'art italien.
Ouais, pour l'art italien, pour l'art, effectivement, les peintres flamands, les sculpteurs.
Ouais.
Et donc, je dirais que à l'époque où il a été professeur, où il a été chercheur, il y avait déjà énormément de personnes qui mettaient de l'avant l'art européen, mm-hmm. l'art du reste du monde. Et lui, il a plutôt travaillé à mettre de l'avant l'art québécois, okay. l'art canadien et aussi les représentations des communautés autochtones. Et donc, il s'est très tôt intéressé à la façon dont les communautés autochtones étaient représentées dans l'art, la façon dont on les peignait, dont on les sculptait. Il s'est également intéressé aux peintres juifs montréalais. Mm-hmm. Donc, il s'est intéressé à tout plein de choses. Effectivement, principalement au Québec, à une époque où il n'y a pas encore énormément de gens qui s'intéressaient à l'histoire de l'art québécois et canadien. Nous, on considérait dans les années 60-70 que, bon, il existe une histoire de l'art, il existe des grands artistes, mais c'est du côté de l'Europe.
Ouais.
Il n'y en a pas vraiment ici. Oui, il y en avait quelques-uns, mais ils faisaient figure d'exception, alors que François-Marc Gagnon a dit non, ils ne font pas figure d'exception et ils sont intéressants à étudier et ils ne sont pas que quelques-uns, ils sont particulièrement nombreux, et il a tâché justement d'en explorer les différentes facettes, autant du côté des communautés juives montréalaises, autant du côté des communautés autochtones, autant du côté des automatistes, autant du côté, bon, des sources de la Nouvelle-France avec les récits de voyage qui décrivent un visuel de ce qu'on découvre en Amérique du Nord. Et donc, c'est vraiment un pionnier important pour qui, bon, j'ai beaucoup de respect et que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir plus amplement en lisant cet ouvrage.
Ça a l'air super intéressant. C'était ton dernier ouvrage qui s'appelle François-Marc Gagnon et l'art au Québec. On a commencé avec une pièce de Paul Fortier, c'était Robertine, pour parler d'une pièce de théâtre qui met en scène deux personnages, mais leur rencontre est fictive, comme tu le disais.
Ils se sont déjà rencontrés, mais il y a une première partie qui est fictive et la seconde partie est réelle, mais c'est ça, effectivement. On en rajoute un peu, comme tu le mentionnes.
Le second, c'était Félix Routier-Bertrand. C'est un aventurier de la musique. C'est mm-hmm. un ouvrage de Paul Cadrin. Et on a conclu, on vient d'en parler, de François-Marc Gagnon et l'art au Québec. C'est un collectif, ça?
Oui.
Je ne sais pas s'il y a
c'est
des...
C'est un collectif dirigé par Gilles Lapointe et Louise Vigneault.
Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut Histoire de lire, ta chronique littéraire du jeudi 17h. On va se dire à la semaine prochaine.
Avec
et merci
grand plaisir.
Beaucoup, du coup, comme à toutes les semaines, on y va avec Lydia Kepinski.
C'est la première fois que je te revois. Le lilas en fleurs, j'ai appris par cœur toutes les rues communes hors la loi. C'est la première fois. J'ai fait vœu de sagesse, j'ai changé d'adresse, tout prévu pour être loin de toi. Montréal.
les pigeons en cœur, je suis sur les containers. Bienvenue à Jojaga et Oshilaga. C'est la première fois. J'ai fait vœu de silence en ton absence. Je me suis tue pour que tu trouves la joie. Montréal.
C'est déjà le temps de conclure en ce jeudi 27 janvier à l'émission de Chérie J'arrive. De quoi est-ce que j'ai parlé? J'ai commencé avec la chronique Le son de la vie avec Louis-David Gingras. Je vous ai parlé de La Roi qui offre une seconde vie à son EP Speed of Life. Ça s'appelle Speed of Life Remix Selection. C'est avec 5 artistes montréalais de la relève de la scène électro locale. Je vous ai parlé aussi du EP Bebop. C'est de Hello Cosmo. Ça va sortir demain. On écoutait en exclusivité entre autres au Hippocampe. Je vous ai parlé de Chaux Sauvage du collectif 1969, de plein de trucs comme à tous les jours. Et j'ai terminé à 17h avec Alex Tremblay-Lamarche et sa chronique littéraire Histoire de lire. Eh bien, on va se retrouver demain. Demain, c'est une émission spéciale pour les 25 ans de Chiz. Demain étant le 28 janvier, on est la journée la plus proche qu'on pouvait faire de la première mise en onde de Chiz. Ça a commencé le 29 janvier 1997, mais on vous donne plus de détails demain. On va recevoir des gens qui étaient là au début de la station, des gens qui ont fait partie de notre histoire de cette radio de Chiz. Donc, manquez pas ça. On se voit demain à 16h, entre autres Émilie Rioux qui va être là en studio, Guillaume Pépin. On va rendre ça un peu festif en mode 5 à 7 pour terminer la semaine. Et justement, on se donne rendez-vous demain 16h sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Moi, je vous dis bonne soirée. Bye bye. À demain.
Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur